My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs des Enfants du Nouveau Monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'une voie de connaissance de soi, puisque c'est un sujet qui m'appelle beaucoup et qui en appelle beaucoup dans le monde aujourd'hui. On a vraiment envie d'aller à la rencontre de notre être authentique. Et pour ça, je suis allée à la rencontre de Imanou Rislard et Paul Charroy. Bonjour, merci de m'accueillir.
Bonjour.
Merci.
J'ai la chance de participer avec vous à un stage de transanalyse. C'est donc une pratique que vous avez mis au point tous les deux, qui est née en 2003. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez vous présenter, expliquer d'où vous venez chacun, un petit peu de quel monde, pour avoir mis au point cette méthode psychocorporelle de connaissance de soi ? Imanou.
Alors, moi, je viens de très très loin, on va dire, c'est-à-dire de la danse, du yoga, du théâtre mouvement de Jacques Lecoq, à travers Patricia Jaïs, qui a été mon enseignante aussi, aussi des arts martiaux avec ma rencontre avec Paul, voilà.
C'est comme ça que tu as rencontré Paul.
Voilà, c'est pour faire du théâtre de rue, donc je l'ai rencontré parce que j'avais envie de mettre des arts du mouvement et notamment du tai chi dans cet art, ce que je voulais me proposer à faire. Et puis ça a été la rencontre avec Paul.
Eh ben, c'est l'occasion de voir Paul. Alors, et toi, tu viens d'où alors ?
Alors moi, je viens d'abord des arts martiaux, on pourrait dire, mais pas seulement. Avant des arts martiaux, j'ai été aussi un directeur de maison de jeunes de la culture, de centre culturel. Et je pratiquais, je travaillais avec des techniques qui sont des techniques du théâtre de l'opprimé, d'Augusto Boal, et sur lequel donc on faisait des actions culturelles à base du théâtre invisible, du théâtre forum, etc. Donc j'avais déjà eu une première, je dirais, initiation du théâtre politique, on pourrait plutôt le dire comme ça. Et puis ensuite, ça a été plutôt les arts martiaux et au niveau l'expérience scénique, ça a été pour moi d'utiliser la gestuelle martiale comme danse martiale. Et donc j'ai été ensuite danseur martial, chorégraphe martial, et j'ai fait tout un cheminement avec différentes compagnies de danse, différents cirques, pendant au moins une douzaine d'années.
Et alors, donc, tous les deux, vous venez d'univers un peu différents, mais qui se sont venus à se rejoindre, mais quand même, tous les deux, vous étiez dans l'expression corporelle. Ça passe avant tout par là. Comment, à un moment donné, vous avez senti à quel point le corps peut détenir des vérités un peu cachées sur nous-mêmes, et comment l'exploration de ce corps peut devenir une voie de connaissance de soi?
Alors moi, j'avais déjà découvert ça. Là encore, je suis plutôt quelqu'un d'un autodidacte, mais un autodidacte qui a réussi à faire une université qui s'appelle Paris 8, qui était à Vincennes à l'époque, et qui était une fac expérimentale ouverte aux non-bacheliers, ce que j'étais. Et donc, en tant que directeur de Maison de Jeunes de la Culture, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui s'appelle Raouf Benyaglan, qui est devenu par la suite un ami, mais qui a été d'abord un formateur, et qui m'a amené à aller à cette école universitaire de 19h à 22h. Et surtout, avec lui, on a fait en plus une antenne dans la MJC, qui était à Tremblay-Gonesse à l'époque, de cette université où des professeurs venaient intervenir avec les gens de la cité, avec les jeunes de la cité, faire leurs cours déplacés dans cet endroit.
Alors des cours de quoi ?
Alors des cours justement d'action culturelle, des cours de psychologie, de philosophie, ça allait vraiment très très loin, d'histoire, etc.
D'accord.
Et puis Raouf, lui, c'était surtout l'action culturelle, puisque j'ai fait le département sciences de l'éducation et action culturelle. Et donc, j'ai découvert là-bas la bioénergie, c'est-à-dire que on allait rencontrer nos cuirasses avec joie, enthousiasme, puisqu'on était un peu dans la fin des années 70, avec un enthousiasme pour cheminer, pour prendre conscience de soi. J'aime dire souvent à l'époque que, par exemple, d'être jaloux, c'était très mal vu.
Oui.
Et donc, on se devait d'expérimenter, de s'ouvrir, etc., etc.
Donc là, par exemple, vous alliez explorer la face jalouse en vous.
Oui, etc., par exemple, et ainsi de suite. Donc, on avait une expression un peu, mais qui était, il faut la resituer, on était des jeunes, comme on dit, mais on aimait aller se faire péter les cuirasses. C'est-à-dire se mettre dans des postures, respirer, etc., sentir les tensions et sentir un moment une libération et qu'il se passe des choses, avec des traversées, bien sûr, émotionnelles, et ainsi de suite. Alors depuis, les choses sont devenues un peu plus subtiles.
Oui, parce que là, on était vraiment dans une voie de défoulement, quoi.
Aussi, voilà, de défoulement, de découverte, et puis surtout d'enthousiasme. Oui. C'est-à-dire qu'on était prêts à... On avait vraiment un enthousiasme, une envie à remettre en question nos schémas, nos croyances, etc. Donc, j'ai découvert la respiration, le mouvement et une autre corporalité, donc plus subtile, plus chargée d'inconscient, d'inconscient qui se révèle, etc. Déjà, donc, à l'université, avec ces expériences d'action culturelle, de théâtre et de formation de sciences de l'éducation qui faisait partie. Alors j'ai un amour et une reconnaissance pour ce vivier d'université qui, pour moi, a été vraiment un bonheur et a ensemencé moi et beaucoup d'autres à cette époque-là. Donc je défends beaucoup cette expérience.
Vrai, vrai bel espace d'exploration.
Et puis donc ensuite, j'ai continué à explorer avec les techniques plus et les approches plus de toujours corporelles, donc de psychothérapie corporelle, avec donc le rebirthing, la respiration endotropique, voilà, donc ça a été, on s'est formés tous les deux en tant que rebirthers professionnels, qui a été le début de notre histoire amoureuse. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, nos week-ends amoureux, c'était pas Bali ou les Antilles ou la Corse même, etc. C'était quel stage on fait, c'était des formations et on allait respirer, se découvrir et donc on était très amoureux. Tous les deux, mais amoureux aussi de ce cheminement.
De votre passion commune.
Et c'est ce qui a donné aussi un goût particulier, une différence, parce que aujourd'hui, on dit aux personnes qui viennent avec nous cheminer, on leur dit, nous, on vous demande d'être amoureux. Pas de venir parce que vous avez un problème. Vous en avez peut-être, comme on en a tous. Mais si vous venez avec un problème pour résoudre le problème, vous allez perdre quelque chose. Nous, on dit aujourd'hui, c'est une aventure. C'est l'aventure de la conscience, l'aventure de la connaissance de soi. Soyez amoureux, c'est des beaux week-ends. Alors bien sûr, on passe par des phases où des parties de nous-mêmes qu'on n'avait pas forcément envie de voir se révèlent, s'apparaissent et s'expriment puis se transforment. Mais alors, quelle belle aventure! Donc c'est ça qu'on essaye aussi de faire passer à travers l'art de la transanalyse. C'est pas parce que il y a des effets thérapeutiques que c'est une thérapie. C'est un peu comme si vous faisiez l'amour pour les effets thérapeutiques. On sait que l'amour et faire l'amour a des effets thérapeutiques et que c'est bon pour la santé. Peut-être que ça n'est bon pour la santé que si je fais l'amour sans cette intention thérapeutique.
Et c'est sûr que si je le fais juste pour me guérir, ça va perdre son charme. Hein.
Voilà. Ben, c'est exactement pareil pour l'art de la transanalyse, comme pour la peinture ou le chant. Voilà. Le chant a des effets thérapeutiques. Ça n'est pas une thérapie. Donc, voilà, arrêtons de confondre les choses.
Et retrouvons les voies de connaissance de soi juste pour le plaisir d'explorer.
De la connaissance de soi, parfait.
Ça demande, Imanou, vraiment l'envie d'être au plus proche de soi.
Ben oui,
c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça qui vous a relié finalement.
Exactement. Et puis le fait qu'on se soit rencontrés dans cette dynamique, c'est-à-dire oser se montrer et pas forcément les plus belles parties, comme dans une relation, on a tendance à se montrer au mieux de soi. Et là, pas du tout. Ça veut dire qu'on va aussi se montrer dans les parties les plus, entre guillemets, les plus puantes, les moins agréables, celles qu'on voudrait dissimuler, qui, au bout d'un certain temps, qui finissent par sortir, mais malgré nous.
Oui.
Et ben là, c'était d'entrer. Donc, du coup, et ben, ça a permis de vraiment tout poser. Donc, les peurs, elles se défont. Et du coup, on rentre au cœur. Et le couple devient une alchimie. Tout ce qu'on a pu créer, l'art de la transanalyse, c'est vraiment issu de cette rencontre-là. Et on dit beaucoup que c'est un tantrisme caractériel. C'est-à-dire on a tout posé, on n'avait plus rien à cacher, on n'avait qu'à s'aimer. Avec toutes ces parties-là, sans les juger.
Quand tu parles de tantrisme caractériel, pour bien expliquer, c'est si on voit le tantrisme comme l'art de se dénuder,
exactement,
de se montrer nu.
Se montrer nu.
Là, c'est montrer à nu toutes les parts de notre caractère, en fait, toutes les facettes de notre personnalité.
C'est ça.
Et c'est certainement la voix aussi qui permet de les transformer, de les,
exactement,
de guérir.
Et c'est comme on disait au début tout à l'heure, c'était de ne pas avoir peur. Bien sûr, on va être confronté, ça va être confrontant. Mais quelque part, la beauté, c'est de pouvoir se déshabiller, d'être à nu. Donc du coup, on est léger. Mais ça, il faut un certain temps.
Bien sûr.
Pour le capter et le sentir et voilà. Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Yeah.
Jusqu'au bout avec Queen, c'était Bohemian Rhapsody. Nous sommes avec Paul Charrois et Imanou Risselard dans Les Enfants du Nouveau Monde. Parce que ces deux-là, figurez-vous, sont de sacrés créateurs. Ce sont des amoureux de la vie. Ils ont créé notamment l'art initiatique de la transanalyse que nous découvrons ensemble.
Alors, dans l'art de la transanalyse, vous utilisez plusieurs outils. Mm-hmm. Le clown en fait partie, le Tao du clown en fait grandement partie. Le souffle également. Vous avez créé le Wu Tao, qui est un art, comment tu le décrirais, le Wu Tao ?
Un art contemporain, déjà, qui se situe dans notre époque. Le Wu Tao est né de quelque chose où on avait beaucoup de limites. On ne trouvait pas tout ce qu'on avait envie de trouver dans la gestuelle et dans le mouvement. Mm-hmm. Il est né de beaucoup de manques, en réalité.
D'accord.
Et pour combler ces manques, on a commencé à se mettre à créer.
Donc, vous avez créé le Wu Tao.
Ouais.
Moi, ce que j'en vois de l'extérieur, c'est que c'est essentiellement basé sur le souffle, mm-hmm. sur l'ondulation de la colonne vertébrale, le lâcher donc, dans le bassin. A priori, il y a beaucoup de blocages au niveau du bassin dans notre société, faut croire. Et que du coup, ça permet de réveiller ce que vous appelez une onde vitale.
Oui. Ouais. Wilhelm Reich l'appelait l'onde orgasmique, hein, ou orgastique,
oui.
Exactement. Mais donc, et c'est important de l'entendre comme ça, c'est-à-dire l'onde n'est pas sexuelle, elle est sexuée, comme la vie d'une manière générale. Mm-hmm. Et donc, l'homme accompli, d'ailleurs pour Wilhelm Reich, beaucoup de gens l'oublient, beaucoup de gens ont utilisé la théorie de Wilhelm Reich pour se libérer sexuellement, alors que le modèle de l'homme accompli ou de l'humain accompli, c'était le Christ pour lui.
Mm-hmm.
C'est-à-dire l'énergie sexuelle qui ne se
sublimée.
Vit pas uniquement au niveau génital. Alors mm-hmm. pas forcément sublimé, parce que dans sublimé, il y a le fait peut-être de monter et d'échapper. Mm-hmm. Alors que là, c'est plutôt l'énergie nourricière de base qui est dans le bassin, qui monte nourrir le cœur pour l'ouvrir.
Mm-hmm.
Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Mais pour pouvoir faire ça, on ne commence pas par ça. C'est-à-dire qu'on ouvre d'abord toutes les énergies de réception cosmotellurique. Alors ça fait toujours cosmotellurique, c'est quoi ? Ben c'est quoi ? C'est la plante que je suis, comme un arbre, j'ai bien une circulation vers la terre, de la terre vers moi et moi vers la terre, et puis vers le ciel et vers les étoiles, qui fait que je suis dans cette verticalité, c'est tout simplement ça. Donc dans cet échange-là énergétique, il y a d'abord ouvrir cette circulation mm-hmm. pour pouvoir ensuite faire monter cette énergie primordiale pour qu'elle ouvre le cœur et qu'ensuite le cœur, à son tour, nourrisse le mental pour que le mental ne devienne pas sec, mais devienne intelligence
mm-hmm.
et non pas intellectualisme.
Mm-hmm.
Donc on a cheminé comme ça et on a découvert aussi dans nos expériences, soit d'acting reichien, soit de respiration nootropique, soit de rebirthing, on a vu qu'il y avait des mouvements spontanés qui arrivaient liés à des blocages. C'est-à-dire mm-hmm. que quand l'énergie rencontre un blocage, il y a une intensité d'ailleurs, et il y a une mise en mouvement, des fois en tremblement, des fois, etc. Et il y a ensuite un moment, quand j'active ça, une libération et un mouvement de vague. Et dans ce mouvement de vague, on a vu qu'il y avait une onde, et qu'il y avait une onde primordiale qui revenait plusieurs fois dans des libérations comme ça. Ensuite, on a vu que dans l'embryogenèse, on parle de l'onde et de l'onde dans le développement de l'embryon.
D'accord.
Et voilà, on s'est rendu compte, je dirais, que bah, la colonne vertébrale, notre colonne vertébrale, c'est notre mémoire reptilienne.
Mm-hmm.
Donc, elle se déplace d'une manière oscillatoire ou ondulatoire et pas d'une manière rectiligne.
Bien sûr.
Donc, voilà, on s'est dit, là, il y a quelque chose de l'ordre du secret, entre guillemets, révélé. Et donc, on a commencé à replonger dans cette onde, en déclenchant cette onde d'une manière subtile, pas par la volonté, par de l'intention, par du lâcher-prise. Et puis à partir de cette onde, on va explorer des mouvements spiralés, etc. Ça, c'est pour le Wu Tao. Et parce qu'on ne trouvait pas ces mouvements-là primordiales, on les trouve dans les textes, mais on ne les trouve plus.
Dans des pratiques.
Dans les pratiques, c'est volontaire. C'est comme si le système volontaire avait écrasé et dominé tout ce qui s'était créé antérieurement dans les traditions par des révélations plus involontaires. Donc, on ose dire qu'on a revivifié peut-être la tradition.
Oui, oui, je comprends. L'idée, là, c'est vraiment de se reconnecter à une pulsion vitale primordiale.
Voilà. Et donc, on a fait un moment, toute une époque de cheminement comme ça, et on a vu aussi qu'il manquait quelque chose
mm-hmm.
dans le cheminement de connaissance de soi. On avait fait à l'époque avec Imanou des ateliers qui s'appelaient les ateliers de l'éveil, sur lesquels on conscientisait les messages de vie, donc les mémoires qu'on a imprégnées en nous, les messages de nos ancêtres. On allait pratiquer sur quelque chose qu'on a vu se mettre en place. On a vu, de par notre expérience scénique, que la psychologie s'intéressait à une partie de nous, y compris Willem Reich qui a fait un descriptif des états caractériels, mais que généralement on est comme si on est comme ça, c'est-à-dire
et
qu'on
que
a
ça
un corps masochiste,
ça fige,
ou on a un corps schizoïde, ou on a ceci, cela.
C'est extrêmement limitant.
Et donc on a vu, nous, dans notre cheminement, qu'il y avait des mutations. C'est-à-dire que quand on jouait, par exemple, une forme, à un moment, la forme mutait dans une autre forme.
Donc la forme, c'est un personnage intérieur. Hein.
Voilà.
Absolument.
Et puis après, on a vu qu'il y avait encore une mutation. Et puis après, on a vu que cette mutation-là, tiens, il y avait un contre-personnage.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'est apparue petit à petit l'idée de la roue des personnages. C'est-à-dire de quelque chose là qui, j'ose dire, ça peut paraître orgueilleux, mais je crois que c'est l'un des apports de l'art de la transanalyse.
Ouais, tout à fait.
C'est de définir l'ego, la construction caractérielle, comme un cycle. Et c'est le cycle entier dont je peux prendre conscience et que je peux changer. C'est pas une seule partie, puisque une partie est liée à d'autres formes qui, elles, ne sont plus parfumées ou plus...
Alors, on va donner des exemples pour rendre la chose un peu plus concrète. Voilà. Mm-hmm. On peut imaginer une grande colère qui donnerait suite à un côté dépressif parce que à une impuissance. Puis cette dépression, à un moment donné, quand elle touche vraiment le fond, un rebond, comme une force vitale qui veut vivre, une rage de vivre, qui va donner une personne entreprenante. Ça va être la face entreprenante de sa personnalité. Et puis peut-être trop entreprenante, donc du coup, elle va s'épuiser.
Exactement.
Et puis elle va retoucher cette impuissance et elle va retomber dans cette colère, etc.
Voilà.
etc.
Et, c'est ça, et là, c'est la description d'un cycle. Et c'est juste de le définir comme ça, de l'énoncer comme ça.
Mm-hmm.
Et puis après, c'est comment on rentre à l'intérieur, comment on arrive à la transformation de ce cycle.
Oui.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce petit cycle que tu viens de décrire, c'est qu'il y a des parties qui sont désagréables, dont on veut absolument se débarrasser, et des parties qui sont...
On a appelé les parties puantes.
Voilà. Et ça, on le doit, et on remercie Jodorowsky, qu'on a suivi pendant de nombreuses années, quand il parlait des éléphants puants. Ça notait l'ego, les éléphants puants, et les éléphants parfumés. Donc on a bien compris, on a bien entendu, on a bien capté ce qu'il disait. Et donc, les parties dont tu parlais tout à l'heure, donc je reviens au petit cycle que tu as décrit. Mm-hmm. Donc, les parties qui sont puantes, ça, je pense que tout le monde a envie de s'en débarrasser.
Et
seulement,
oui.
Après, il y a des avantages collatéraux, c'est-à-dire qu'il y a des parties où on retrouve des ressources, et là, on va se sentir bien, où on a été au fond, puis on va être rebondissant, on va trouver de la force. Mais ces parties-là font partie du cycle. C'est-à-dire, je ne peux pas changer. Si je ne touche seulement à la forme puante, ça ne changera pas. Il faut que j'aille voir aussi la partie positive, parfumée qui est liée.
C'est un peu les deux faces de la monnaie. Quoi.
De la monnaie,
c'est-à-dire que
exactement.
Mon côté dépressif m'amène aussi une grande lucidité sur le monde, par
exactement.
Exemple.
Exactement, je vais y trouver des bénéfices secondaires. Donc ça, je veux le garder à tout prix. Je ne veux pas y toucher. Or, si on veut vraiment arriver vers la transformation et aller vers le soi, il y a la nécessité de prendre l'ensemble et de ne pas juste faire un tri. Ce n'est pas possible.
Alors, tu parlais de transformation, de cette roue dans laquelle on peut se sentir un peu pris au piège comme un hamster. Hein, parce qu'à un moment donné, en prendre conscience, c'est bien beau, mais quand je sais que mon côté...
On peut tourner des vies.
Voilà, c'est ça. Donc, comment opère cette transformation? Qu'est-ce qu'on fait avec cette roue des personnages une fois qu'on
Alors,
en
d'abord,
prend conscience?
D'abord, c'est important de la conscientiser.
Oui.
Donc,
qui
la conscientiser,
un énorme premier
qui est
pas.
Énorme. Et donc, après, vient généralement quelque chose qui est en conflit avec des fois des élans intérieurs de vouloir se débarrasser.
Oui.
Donc, la personne rentre souvent en difficulté, comme ça, avec un mot qu'on utilise en anglais, qui est « you accept ». Donc, c'est vraiment l'idée de « c'est accepter, on ne peut rien faire ». D'abord, voir et accepter. C'est-à-dire que si je veux même transformer, c'est-à-dire faire œuvre alchimique, il faut que j'ai de la matière.
Bien sûr.
Pour avoir de la matière, il faut que j'accepte d'abord de conscientiser ma construction caractérielle dans ses aspects les plus puants, les plus moyens, et puis les plus géniaux, plus résilients, etc. Donc dans tout. Et de voir les liens, comment les formes se tiennent, comment une forme puante est liée à la naissance d'une forme parfumée qui m'apporte réussite, qui m'apporte séduction, qui m'apporte, etc. Et ça, je veux pas lâcher ça.
Bien sûr.
Donc, comment j'arrive alors à changer en prenant conscience de l'ensemble? Puis ensuite, quand on a fait ça justement dans notre cheminement, dans les ateliers de l'éveil, on a vu qu'il manquait quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait une prise de conscience, et il manquait quelque chose qui était le jeu.
Le jeu.
Et donc, il fallait passer au jeu, et donc nous est revenu notre cheminement de théâtre.
Tout à fait.
Nous avions un ami, Giovanni Fusetti, qui pratiquait avec nous aussi ce cheminement-là, qui était prof chez Lecoq aussi, et qui était en plus gestalt-thérapeute.
Ah oui, d'accord.
Donc, On s'est réunis tous les trois et on a cheminé et on a refait tout un cycle d'accompagnement pendant 2 ans ensemble avec une théâtralisation de la roue. Okay. Et on a vu qu'en théâtralisant la roue, se rajoutait donc quelque chose qui est peut-être l'apport de l'art de la transanalyse, c'est-à-dire la psychothérapie a fait découvrir au monde que ce que je n'exprime pas s'imprime. L'art de la transanalyse peut-être fera découvrir au monde que ce que je ne joue pas de moi se joue de moi. Donc on est sur une autre étape, sans renier la première.
Donc là, vous offrez en fait un espace théâtral pour que chacun puisse jouer sa roue, ses personnages intérieurs, même sans en avoir conscience, puisque vous aidez chaque personne à découvrir ce qui se révèle à travers sa posture,
Exactement.
etc. Et il y a une dimension initiatique à se dévoiler comme ça dans le regard du groupe.
Oui. Alors complètement, il y a l'idée, donc, disait Imanou, de tantrisme caractériel, donc oser se montrer dans les aspects pas forcément flatteurs.
Oui.
Après, il y a l'idée aussi de renouer avec la tradition de connaissance de soi de notre théâtre européen, voire français. Je vais revenir à des sens qu'on a. On a fait des greffes au niveau de la connaissance de soi, de l'éveil, en Orient, en Asie.
Oui.
On nous parle d'ego. On nous parle de Maya, le monde est illusion. Nous, aujourd'hui, on trouve que les mots français de notre culture, qui parlent par exemple de comédie humaine, à la place de Maya, est peut-être plus
proche de notre
proche
culture
et possible à intégrer pour nous comme concept. Parce que le monde est illusion, difficile. Mais d'un seul coup, le monde est une comédie humaine. Ah, c'est notre culture. Et puis, quand on voit aussi, par exemple, le mot personnalité, vient du latin persona, qui veut dire masque. Mon Dieu, quel magnifique mot pour désigner l'ego.
Bien sûr.
Notre propre culture nous dit que notre personnalité, c'est notre masque. Et ce qui, à un moment, donc, va freiner, va empêcher la révélation du soi avec un grand S, parce que le petit soi masque cette réalité, cette identité.
Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de réaliser qu'on n'a pas qu'un seul masque, mais qu'on a une roue de masques.
Exactement.
Parce que sinon, comment chercher un ego dans une multitude de facettes? On en perd notre latin, quoi. Donc, vous avez rédigé un livre avec Delphine L'Huillier sur la transanalyse. Le sous-titre, c'est « De la résilience à l'éveil de la conscience ». Ça me semble très intéressant, puisque la résilience a une connotation très positive. Hein. Dans la psychologie, généralement, on a l'impression que quand on a résilié, on a guéri. Or, vous donnez une autre vision de cette résilience, même si elle est toujours aussi positive, mais vous parlez vraiment de la résilience à l'éveil de la conscience. Donc, comme si la résilience manquait un peu de conscience.
La résilience, c'est un rebond qui vient sauver l'être parce que c'est une situation tellement énorme et intense, sinon on ne pourrait pas y survivre. Donc il y a la résilience qui vient nous sauver. Il y a quelque chose qui se passe au-delà de notre volonté qui nous fait émerger dans un autre espace et on survit. Et c'est génial parce que d'un seul coup, je peux vivre et je peux continuer ma vie. Mais pour aller un peu plus loin, ça ne fait pas de nous quelqu'un de conscient. On sait ce qui s'est passé, on sait qu'on a rebondi, mais on est vraiment prisonnier de cet espace-là.
Vous avez parlé, par exemple, de la chanteuse Barbara.
Barbara, par exemple, pour nous, est un cas magnifique de résilience, donc avec talent, en plus avec réussite, en plus avec succès. Donc, la résilience ne l'a pas empêchée. D'ailleurs, à un moment, il lui a fallu une démarche d'ordre psychothérapeutique et à un moment, un coming out, où elle a enfin révélé que ce fameux succès qui était donc l'aigle noir parlait de la relation incestueuse avec son père et des visites nocturnes de son père dans son lit. Donc on voit bien là qu'on a un exemple de résilience, mais qui fait que la personne peut être très malheureuse malgré la résilience, le succès, etc. On peut voir ça dans beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de résilience, au point d'ailleurs des fois de revendiquer l'inconscience. C'est-à-dire que les artistes des fois ont du mal à éclairer les motivations de ce qui les anime dans leur création artistique, parce qu'ils ont peur de toucher à ce qui est amalgamé avec.
En gros, ils sont attachés à leur souffrance parce que c'est aussi la souffrance qui est la racine de leur expression artistique.
Exactement. Alors, c'est pas un attachement, je dirais, peut-être psychologique, conscient, c'est presque organique, ou presque énergétique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des circonstances ont créé chez moi quelque chose, donc des circonstances, par exemple, traumatiques, on va dire, pour faire clair, et que dans ce traumatisme, à un moment, j'aurais pu complètement être anéanti, puis j'ai trouvé un rebond, j'ai trouvé une résilience, et je me mets à écrire, ou à chanter, ou à peindre. Et donc, j'ai trouvé quelque chose. Et je confonds puisque l'expérience confond le pli, la circulation de l'énergie et le rebond qui se rebondit dedans avec la qualité de l'énergie qui a circulé dedans. Donc j'ai une sorte de confusion entre le lit de la rivière et la rivière. Et je m'attache aux deux. Et je veux surtout pas qu'on touche ça. J'ai peur que si on touche à ça, tout disparaisse.
Et donc pour, ça, c'est pour clarifier grande... un petit peu l'image que tu viens de prendre, la rivière, ce serait l'énergie vitale.
Oui.
Le lit de la rivière, donc les sillons, ce serait l'empreinte caractérielle, c'est-à-dire les traumatismes, exactement, tout ce qui a creusé en moi, des souffrances, des plis, des rides, des, voilà, des creux. Et l'énergie passe à travers ça. Et
je vais donner d'un exemple très caricatural pour faire comprendre.
Oui.
Je suis dans un jardin d'enfance où il y a de la violence. Je suis un enfant battu. Je suis donc, je subis et je prends des coups. Je prends des coups et dans cette douleur, je touche à un moment un rebond et un espace de créativité. Qu'est-ce que je vais, si je ne conscientise pas et si je ne détrame pas ça? Je vais chercher et recréer les mêmes conditions dans lesquelles j'ai trouvé cet espace de création, voire même cet espace d'éveil.
Oui. On peut même dire que quand il y a une entrée comme ça aussi douloureuse, c'est aussi par là que l'éveil peut survenir. Ah. Mais c'est un vrai chemin d'alchimie parce qu'il va falloir détramer. Détramer. Et détramer autant de temps qu'il sera nécessaire pour avoir juste d'un côté ce qu'on a touché au fond et laisser de côté
les empreintes
les
du
empreintes.
Trauma.
Et c'est ça vraiment l'œuvre alchimique de chaque être quand il s'en va.
Et c'est vraiment pas facile à faire.
Non.
Donc c'est une voie vraiment de chevalier et de chevalière, parce que c'est pas facile. Je vous donne encore un autre exemple. Une femme a été abusée sexuellement dans une église par un homme qui est venu au contact par derrière, en se venant se frotter sur ses fesses, dans son dos. Cette femme a cheminé, a eu une résilience, elle a eu une belle vie, un bel épanouissement amoureux, sexuel. Et puis, d'un seul coup, elle réalise... en prenant du plaisir dans une posture où l'homme est derrière et où il lui fait l'amour derrière, et d'un seul coup revient cette image-là où elle était très jeune et où elle a eu ça. Et d'un seul coup, une panique totale se prend d'elle parce qu'elle voit comment son plaisir d'aujourd'hui est lié à cette empreinte traumatique. Ben, je pense qu'on ne peut pas minimiser le fait que c'est ainsi. Ça ne peut pas être autrement. Pendant un moment, cette femme a eu du mal même à refaire l'amour parce que elle refusait cette expérience traumatique et elle refusait l'empreinte du plaisir qui était liée malgré tout à cette empreinte primordiale dans son développement de sa libido. Et donc il a fallu qu'elle détrame avec une phase pas facile où elle a eu peur de perdre même le plaisir dans les relations amoureuses pour pouvoir retrouver une liberté et un plaisir plus vaste et plus ouvert et plus épanoui dans sa vie amoureuse et dans sa vie sexuelle. Je pense que si on déplace et si on peut comprendre dans ces moments-là, dans ces exemples-là, déplaçons-le dans plein d'autres moments et on verra que nos empreintes sont confondues avec l'énergie qui y circule dedans. Et c'est ça qu'il faut essayer de détramer.
Et il y a quand même quelque chose, après tous ces exemples assez, je veux dire, hauts en couleur et qui font partie de la vie, il y a aussi les personnes qui, par contre, elles, n'ont pas apparemment d'histoire traumatique, où tout est tiède.
D'accord.
On les appelle les tout-baignes.
C'est les plus dur.
C'est les plus difficiles, parce qu'elles ne voient pas à quel point elles ont été...
Déterminées.
Ça, c'est aussi...
un traumatisme.
Un traumatisme, voilà. Et ça, il faut que les personnes puissent s'en rendre compte. Donc, c'est aussi important. Là, je voulais...
Merci beaucoup pour cet ajout. Ça me semble très important parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent « Oh, j'ai pas souffert,
et en fait... »
Et qui restent dans des ornières qu'on a créées pour eux.
Exactement.
Et qui ne remettent pas ça en question.
Et qui ne sont pas libres du tout. Et qui restent, en fait, enfermés dans des petites choses et qui sentent bien, au fond, que ça ne va pas. Mais ils n'arrivent même pas à se dire « Mais ça ne va pas ».
Oui.
Et ça, ils n'ont même pas les mots pour s'en rendre compte. Et ça, c'est une souffrance. Et souffrir sans s'en rendre compte, c'est encore... Je pense que c'est une grosse souffrance.
Burn, fire, burn. Blood around, blood around. The children want to have no fun. The children want to have no fun. Fire, burn, fire, burn.
Fire, burn, fire, burn.
Blood around, blood around.
Blood around.
Children want to play in the sun. The children want to play in the sun. Put it down, put it down.
Put it down, put it down.
Cause the fire could burn your soul and also your lover. Cause the fire could burn your soul and also your lover.
Fire burn, fire burn. Cause the fire could burn your soul and also your lover. Fire burn, fire burn. Blood around, blood around. The children want to have enough fun. The children want to have enough fun. Fire burn, fire burn. Blood around, blood around. The children want to play in the sun.
Fireburn, c'était Kimani Marley dans Les Enfants du Nouveau Monde, où on découvre un art initiatique de connaissance de soi, la transanalyse. Ses fondateurs, Paul et Imanou, donnaient un stage récemment à Paris. J'y étais et j'y ai rencontré Anna.
Anna, elle a 53 ans et elle vient de Chambéry. Elle est instructrice en Wutao. Bonjour Anna.
Bonjour.
Alors, j'aimerais bien savoir, toi, ton approche, elle est avant tout corporelle dans
là,
la transanalyse.
Oui. Ouais, bien sûr, par la posture, par le mouvement, par la chose qui se révèle dans tout le corps, dans l'attitude, mais aussi dans les mimiques, hein, voire dans les sons, dans la façon de respirer, dans le regard. Voilà, en fait, les autres les stages qu'on avait faits, c'était pas du Tao du clown, mais c'était évidemment, il y avait du Tao. Et il y avait de la posture et du jeu théâtral, bien sûr. Vraiment une très 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 belle façon de s'affranchir du mental pour après seulement éventuellement plonger dans l'analyse. Donc l'analyse, finalement, elle se résume à ce qui se passe dans l'instant et ensuite dans la transcription qu'on peut en avoir. Moi, j'aime beaucoup écrire et du coup, je vais ensuite, souvent c'est dans le train en rentrant ou entre deux, le midi ou le soir. Je retranscris ce qui ressort de la journée et il y a plein de trucs qui se mettent en lien avec des ah oui, des waouh, des... Moi j'ai eu une histoire un peu compliquée, j'imagine, comme beaucoup de personnes. Et là, oui, j'ai un regard différent sur mon lien à ma mère, par exemple, ou à ma petite enfance, dans ma fratrie. Ça me permet petit à petit d'avancer dans ma relation avec moi-même, mais avec les autres. J'ai vraiment l'impression d'un outil qui permet d'explorer sans limite. Alors on pourrait dire, on m'a dit, d'autres personnes en dehors d'ici sont étonnées du fait qu'on ait besoin de creuser et creuser encore, mais c'est un besoin vraiment personnel de mieux pouvoir me comprendre pour avancer dans la relation que j'ai avec moi-même et les autres.
C'est le fameux connais-toi toi-même de Platon, hein.
Oui. J'ai du mal d'ailleurs à imaginer la vie des gens qui n'avancent pas sur ce chemin-là, qui n'ont pas besoin. Je me demande, mais bon, ça doit être possible.
Oui, oui, c'est sûr, moi aussi, je me pose un peu la même question. Il y a quelque chose qui est très important dans la transanalyse comme dans le Wutao, c'est la présence du souffle. Comment tu en parlerais de l'importance du souffle dans cet art-là?
Le souffle. Je suis très sujette au stress. D'accord. Et la première chose qui vient quand je me sens en stress, c'est qu'en fait le souffle se scotche dans le diaphragme et que tout se colle, se fige avec des sensations qui ne circulent pas. Voilà. Et le souffle, là, dans la transanalyse, il y a plein de choses possibles à activer par le souffle. Et en allant activer ce souffle, on passe quelquefois dans une conscience modifiée. On cherche ça, d'ailleurs, de façon à pouvoir dépasser le mental. Là, c'est vraiment ça aussi. C'est pouvoir dépasser le cadre où on réfléchit, on dit « là, je vais faire ci, là, je vais faire ça ». Ça permet vraiment, pouf, de passer dans la transe.
Dans quelque chose de beaucoup plus instinctif.
Voilà. Et pour ça, en fait, bah, on active la forge.
Par le souffle.
Par le souffle. Pour moi, c'est toujours très difficile, même en ayant déjà fait, en faisant du Wutao, etc. C'est vraiment pouvoir mettre le doigt sur l'émotion, la nommer.
Oui.
Mais petit à petit, par rapport aux premières séances, où je me sentais très, très démunie par rapport au fait de nommer, du coup, d'identifier et de pouvoir... vivre pleinement l'émotion qui était là, j'arrivais pas du tout. C'est-à-dire, pour moi, c'était de l'insaisissable. Du coup, là, je vois. Puis,
tu sens que ça se fluidifie.
Ça se fluidifie. Et les premières fois, d'ailleurs, j'avais été prévenue qu'il y aurait des larmes, des rires, même de la morve, voilà, enfin, qu'on dirait très, très, très loin. Et ça peut faire peur.
Bien sûr.
Et en même temps, c'est un groupe vraiment bienveillant. C'est vraiment clos, sans rien qui soit du risque, de la prise de risque. Mmh. C'est vraiment protégé dans ce sens-là. Mmh. Oui, les premières fois, c'était très dur parce que j'étais tellement dans la rétention d'émotions, ne sachant pas me poser dedans ou me lâcher dedans, que les premières fois, c'était des choses extrêmement bouleversantes. Mmh. Je pleurais comme une madeleine. Mmh. D'ailleurs, ça m'a repris un peu aujourd'hui, à un moment donné aussi. Et c'est vrai qu'au début, c'est la tendance, oh là là, là là, c'est pas possible.
Pleurer en public devant
oui,
tout ce monde.
Qu'est-ce qui peut sortir? Et en fait, avec le guidage de Paul et Imanou, il y a vraiment la possibilité, du coup, de traverser des choses, de se laisser aller à traverser les choses. Et c'est magnifique ce qui sort. Peut-être pas forcément tout de suite, parce qu'on n'arrive pas forcément à comprendre ce qui se passe, mais ça libère des choses, ça libère des voies, ça ouvre des voies. Et plusieurs fois, régulièrement, il y a des choses qui font... voilà, avec des prises de conscience soudaines. Et ça, c'est juste des moments magnifiques des résolutions, de petites choses, ouais, très importantes en fait dans le puzzle. J'aime beaucoup la description de la transanalyse, qui est ce que je joue de moi ne se joue plus de moi. C'est vrai, c'est petit à petit lâcher des masques en les jouant.
Alors, au sein de ce stage de transanalyse, j'ai rencontré Benoît Lachambre. Alors, Benoît, il a 39 ans. Il est danseur après une carrière dans le bâtiment, donc un parcours plutôt atypique. Salut, Benoît.
Bonjour, c'est une Élodie.
Alors, toi, donc, t'as découvert la transanalyse il y a longtemps, mais tu t'es mis vraiment à la pratiquer assez récemment, finalement. T'as lu le livre de la transanalyse il y a 3 ans, ça a maturé en toi, et t'as commencé des stages seulement au début 2018.
Exactement, oui.
Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte, la transanalyse?
Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'art de la transanalyse, c'est justement cette fusion de la transe, de l'analyse, du psychologique, de l'observation, de la connaissance de soi d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue structure psychologique, et ce travail de la transe qui passe par le corps. C'est vraiment le fait de pouvoir observer ses caractères, observer ses modes d'action à travers ma corporalité, à travers ma forme, et de voir que en touchant ma forme, je vais pouvoir animer, activer, prendre contact avec ce qui m'anime dans mon quotidien, dans ma relation aux autres et dans la vie en général, quoi.
Donc quand tu dis ma forme, ça peut être mes formes aussi, c'est les formes que prennent mon corps, en fait, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, les formes qui imprègnent mon corps, ouais.
et ouais, qui émerge ça. Donc
qui émerge suivant les situations, suivant l'interaction, mm-hmm. en fonction des situations, dans l'intimité, dans le travail, dans tous les différents espaces de la vie. En tant que parent, il y a différents aspects qui prennent forme et des changements d'attitude, de posture qui vont se mettre en place, qu'on peut commencer à toucher et à découvrir petit à petit à travers la transanalyse.
Alors toi, là, lors de ce stage, tu as vécu un moment très fort, hein, donc à travers ton passage en clown. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Oui, je peux. Là, c'est le deuxième module auquel je participe. Et donc là, ce qui a pu émerger, ce que j'ai pu jouer, sur quel espace j'ai pu prendre du jeu pour pouvoir le laisser s'exprimer en conscience, c'est un espace qui touche à ma première année de vie, pendant laquelle en fait, j'ai été hospitalisé toute ma première année de vie. Et c'est un moment de ma vie dont j'ai aucun souvenir, dans lequel j'avais aucun mot, et qui a imprimé, qui a laissé toute une empreinte relationnelle, caractérielle, un tas de choses que j'ai découvert un petit peu tout sur mon chemin, mais avec lequel, pour l'instant, j'ai eu très peu de contact. Là, j'ai vraiment l'impression de ce qui a pu se manifester dans mon clown, dans cet espace, ça a été l'expression d'une situation vécue à une époque où je n'avais pas de mots, où j'avais pas de moyens de me dire, de communiquer, de partager mes ressentis. Et là, ça a pu se traduire donc dans une expression très, très, avec très peu de verbes, mais avec tout un grommelage, toute une modulation sonore et une gesticulation qui venait dire à quel point j'étais gêné, empêché, attaqué de partout, parce que j'étais pendant mon hospitalisation sous cathéter, sous perfusion, dans une chambre stérile, et tout ça pendant un an, coupé de contact, quasiment coupé de contact.
Tout petit bébé.
Donc voilà, et là vraiment c'est quelque chose qui a pu se mettre en jeu, avec lequel j'ai pu récupérer de la visibilité par rapport à la distance que j'avais pu prendre. Et ça grâce, alors ça a pu aussi prendre forme parce que depuis le dernier module, je participe à des séances individuelles en transanalyse mm-hmm. complémentaires mm-hmm. Pour aller trouver ma roue caractérielle. Qui fait partie de cette pratique et qui m'ont permis de tirer des fils indépendamment du travail qu'on a fait en groupe et qui m'a soutenu à pouvoir laisser émerger ce que j'ai pu exprimer, présenter, offrir au groupe cette fois-ci.
Et alors, on a bien vu à quel point toi, tu as pris plaisir à rejouer, à jouer cette période de ta vie qui était certainement extrêmement souffrante, et là pourtant tu l'as joué avec un immense plaisir et ça a donné aussi un grand plaisir à tous ceux qui ont pu assister à ça.
Mmh. Ouais, c'est ça qui est assez extraordinaire dans cette dimension du jeu, parce que on a l'impression quand on parle de jeu que on fait semblant, arrête de jouer la comédie, arrête de faire semblant, alors que l'espace du jeu, là c'est la prise de distance, c'est pour moi une forme de méditation active où grâce à l'encadrement, la conduite de Paul et Imanou, on apprend à garder un état de relation à soi-même, à l'autre, et de pouvoir devenir spectateur de la forme qui se joue, de l'émotion qui se joue, donc de pouvoir laisser jouer une empreinte énergétique, de laisser pouvoir jouer un trauma, de laisser pouvoir jouer une faille. Et en ça, le fait de pouvoir avoir ce recul, c'est vraiment un espace de visibilité qui offre de la joie, qui offre de plaisir, et on se voit dans cet espace qui est bon pour l'autre, qui fait rire, m'a fait vraiment rire, et j'ai pris du plaisir à aller dans cette colère, dans cet énervement, cette souffrance, et ce qui est très paradoxal, et en même temps, ce qui fait partie entièrement de nous, quoi.
C'est là qu'on voit bien donc que ça permet de se décoller de notre histoire, à la fois de se la réapproprier pleinement et en même temps de s'en décoller, c'est-à-dire de se désidentifier et de voir que bah, c'est une part de nous, mais c'est pas tout nous, puisque là, comme tu le dis, il y a la possibilité à la fois de le jouer et en même temps d'en être acteur et spectateur en même temps.
Mmh. Exactement, ouais. Et en plus, le fait parfois de voir des espaces qu'on s'est toujours cachés, ça fait peur et on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Mais ce que j'ai appris par le chemin, mon cheminement, c'est en fait du moment où on commence à le voir, c'est là où en fait il n'y a plus en avoir peur. On pouvait en avoir peur avant, mais on n'était pas conscient. Mais c'est là que c'est effrayant quand on ne voit pas. Du moment où on voit, on peut appréhender le danger, on peut pouvoir aussi le doser, on peut le réfréner, on peut, et on peut commencer à l'adopter,
à jouer avec,
exactement. Ouais.
Le Tao du clown proposé par la transanalyse nous permet de jouer la forme qui se manifeste dans l'ici et maintenant, celle qui apparaît le plus clairement aux yeux du public. Mais il n'est pas toujours facile d'avoir accès à toutes les formes qui s'animent en nous. Certaines sont très inconscientes, latentes, cachées ou plus difficiles à assumer. Pour explorer à travers la mise en mouvement et le jeu une large gamme de dynamiques vitales, la transanalyse utilise ce qu'elle appelle les axes des dynamiques vitales. Ce sera l'objet du prochain stage proposé par Paul Charroy et Imanou Rislar du 30 juin au 2 juillet prochain à Paris.
On a une session d'art de la transanalyse sur les polarités. Donc là, c'est moins impliquant que ce qu'on fait là et ce que tu...
Ce qu'on fait ce week-end, c'est
du masque neutre au Tao du clown. Donc c'est un cheminement vraiment là de connaissance de soi sur cette action où les personnes rentrent en scène, vivent la scène et vivent des choses ou pas, ou leurs difficultés, etc. Donc ils se rencontrent vraiment, c'est assez fort à ce niveau-là. L'entrée dans l'art de la transanalyse du prochain stage sur les polarités est plus facile pour les personnes. Parce que c'est quelque chose qui se vit en groupe.
Oui, c'est plus entraînant.
On n'est pas tout seul sur scène avec son nez rouge et voilà. Donc, on vit des cheminements vers des dynamiques de mouvement qui régulent nos vies. Avec, je peux vous en donner un axe. Donc, il y a 6 axes et 12 polarités. Il y a, par exemple, au-dessus, en dessous. Donc, j'ai une dynamique absolument nécessaire dans ma vie. Des fois, c'est d'être au-dessus. Puis, des fois, d'être en dessous.
Okay.
La dynamique, si je ne la vis pas d'une manière juste... Qu'on peut dire vertueuse, mais c'est un peu trop comme terme,
ouais.
Eh ben, elle va se pervertir. Mon au-dessus, s'il n'est pas souverain dans ma vie, il va devenir un peu autocrate, un peu tyrannique, voire sadique. Donc la polarité complètement pervertie, c'est le sadique. Et de l'autre côté, l'en-dessous, qui est le dévoué, dans sa belle épanouissement, s'il n'est pas, il n'y a pas une place dans ma vie où je vis, où je suis dévoué à une cause ou dévoué à quelqu'un, etc., etc. Et je rappelle, c'est une dynamique qu'on a besoin pour vivre notre vie en nous. C'est vraiment, on peut pas vivre sans au-dessus. D'accord?
On a besoin d'explorer.
Et bien sûr, toutes les autres.
Exactement. Hein.
Donc, l'en-dessous, s'il se pervertit, ben, il va devenir
le soumis, et puis
il va devenir le masochiste.
Oui.
Et donc, l'expérience de ce cheminement sur ces différents axes, il y en a d'autres, il y a avec, sans, hein, pour, contre, etc., etc. Et donc, permet de découvrir quelque chose d'essentiel qui est une graduation. C'est-à-dire, l'état psychopathologique est une perversion d'une dynamique de mouvement qui n'est pas bien vécue et qui donc se pervertit parce qu'elle doit se vivre.
D'accord, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'aurais pas réussi à vivre un état en équilibre et en justesse, tout dans ma vie va m'inviter à aller là-dedans et du coup ça risque d'être un peu catastrophique.
Si je n'ai pas un espace, un moment souverain dans ma vie où j'affirme une autorité, une compétence, une connaissance au service de, d'ailleurs, parce que souverain c'est ça, c'est pas souverain pour dominer, mais je me mets au service, donc un enseignant par exemple, et quelqu'un de souverain au service de, et il transmet quelque chose. Si je ne vis pas ça dans ma vie, obligatoirement, je vais avoir une relation avec mes enfants, avec ma compagne, mon compagnon, ou avec d'autres, où je vais prendre d'un au-dessus. Je vais les tyranniser, je vais les écraser, je vais les dominer, je vais être entraîneur d'une équipe de handball et je vais
humilier,
etc. etc.
En fait, on peut aussi, il me semble que c'est la théorie de Laborie aussi qui montrait aussi avec les histoires des rats, que quand des rats étaient mis sous tension, on leur envoyait des décharges électriques et qu'ils étaient, qu'ils pouvaient s'échapper, ils allaient bien. Après, ils ont donné l'impossibilité, je crois, aux rats de pouvoir s'échapper et donc de rester dans un endroit plus clos où ils étaient réduits. Et donc, ils se déchargeaient entre eux, se mordaient entre eux. Mais tant qu'ils avaient quelqu'un, c'était bien.
Ils allaient bien.
Ils allaient bien. Et puis après, ils n'avaient plus personne pour qui se décharger.
Donc, ils étaient seuls.
Ils étaient seuls avec les décharges électriques. Et donc, après, ils dépérissaient. Donc, c'est vraiment l'idée pour illustrer que quand on vit quelque chose, s'il y a quelqu'un pour le décharger,
une charge, je décharge, on peut survivre. Donc même si c'est malheureux,
oui.
Donc la nécessité de ces polarités, elles sont vraiment explicites dans cet espace-là, oui, et c'est très important.
On s'amuse à les chanter, on s'amuse à trouver des chansons qui correspondent aux polarités, etc. etc. Donc c'est très créatif, très agréable,
c'est très
et ça n'implique pas soit tout seul devant les autres. Donc là, on peut prendre ce qu'on peut,
on
dose les choses, donc c'est une très belle porte d'entrée pour commencer l'art de la transanalyse.
Très bien. Bon, ben merci beaucoup pour ce que vous apportez. C'est vraiment riche, la transanalyse. Moi, personnellement, je suis enthousiasmée par votre approche. Le livre me paraît extrêmement clair, très agréable à lire. Je me suis régalée aussi. Donc, on peut le redonner. C'est La transanalyse, de la résilience à l'éveil de la conscience, d'Imanou Risselard et Paul Charrois aux éditions Le Souffle d'Or et co-rédigé par Delphine Lullier. Voilà. Merci beaucoup. C'est un plaisir de faire votre connaissance.
C'est partagé.
Au plaisir.
Et pour plus d'infos ou pour rejoindre un stage, allez simplement sur le www.trans-analyse.com. Nous, on se retrouve le mois prochain. Ciao!
My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les mois sur Radio Fuse. Et en attendant la prochaine, retrouvez et téléchargez toutes mes interviews sur le site web au service du vivant.info.